Parfait. On a l'enregistrement. Alors, voilà. On est à la page 26, le point 2.5. Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Srila Prabhupada ki jai.
Jai.
Alors, bienvenue au cours de la page 26, ligne 14, le point 2.5. Virginie, est-ce que tu voudrais lire, s'il vous plaît?
Hare Krishna, oui. Lorsque l'on suit les bonnes règles d'hygiène, on ne tombe pas malade. De même, l'être humain doit être informé. Il doit être formé selon certains principes de vie afin de raviver sa connaissance originelle. Le maître spirituel est comparé à un médecin qui sait prescrire la médication appropriée et la diète qui s'impose. Parfois, voire souvent, à vrai dire, il est plus facile de comprendre par la langue que par la tête. Faut-il dire que les animaux comprennent essentiellement par la langue? Que faut-il dire des hommes, pire que des animaux, qui n'ont que faire de par leurs excès dérogeant aux lois de la nature? Sans grand espoir de salut en perspective, ils peuvent cependant trouver une planche de salut sous la forme du prasad, la nourriture offerte à Vishnu. Telle est la grâce de Srila Prabhupada à l'égard d'une humanité autrement égarée, s'en allant tout droit à court du but ultime de la vie humaine. Srila Prabhupada a toujours insisté qu'il y ait une généreuse distribution de prasad à toutes ses conférences ou visites. Srila Prabhupada décrit l'importance du prasad dans ses teneurs et portées au verset 3.14 et 3.13 et 3.14 de la Bhagavad Gita. Yagna, Sistasina, Santo, Michamte, Sarva, Kilbish, Shias, et Bunjate, Tetev, Agam, Papa, Yepanchanti, Atma, Karana. Yagna, Sista, la nourriture prise après l'accomplissement du Yagna, Ashina, Asina, qui mange, Santa, les dévots du Seigneur, Muchamte, sont soulagés d'eux, Sarva, toutes sortes de
Shai,
Kilbishai, Kilbishai, merci. Péché, Bunjate se délecte, te ils tu mets, Agam, de très graves péchés, papa les pécheurs, Yeki, Panchanti, prépare la nourriture, Atmakaranat, pour la satisfaction des sens. Les dévots du Seigneur sont affranchis de toute faute parce qu'ils ne mangent que des aliments d'abord offerts en sacrifice. Mais ceux qui préparent des mets pour leur seul plaisir ne se nourrissent que de péché. Teneur et portée. Les dévots du Seigneur suprême, ceux qui ont adopté la conscience de Krishna, sont dits santas, comme l'explique la Brahma Samhita 5.38, Premanjana, Chudita, Bhakti, Vilochanena, Santa Sadiva, Hridayeshu, Vilokanyati. Ils ont un amour indéfectible pour le Seigneur. Parce que ce lien d'amour les unit toujours à Dieu, les Santas n'acceptent rien pour eux sans l'avoir au préalable offert à la personne suprême, qu'on appelle Govinda, la source de tous les plaisirs. Mukunda, le pourvoyeur de la libération, ou encore Krishna, l'infiniment fascinant. Aussi, ces dévots accomplissent-ils toujours les différents yagnas propres aux multiples aspects du service de dévotion, tels que Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Archanam, etc. Ces yagnas leur permettent de ne jamais se laisser contaminer par tout ce qu'il y a de mauvais dans l'environnement matériel. Ceux qui ne préparent des aliments que pour leur satisfaction personnelle, non seulement volent, mais mange littéralement du péché. Or, comment peut-on être heureux si l'on est à la fois pécheur et voleur? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi les hommes qui désirent un bonheur parfait doivent apprendre à suivre la voie aisée du Sankirtan Yajna, en pleine conscience de Krishna. Sans cela, il ne peut y avoir de bonheur ou de paix dans le monde.
Bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a
Merci.
des commentaires ou des questions?
J'avais une question,
Oui.
juste, sur il y a Krishna, Vishnu, Govinda, puis il y a plusieurs autres expansions. Est-ce qu'il y a une hiérarchie ou sont dans la même plateforme égale?
Ils sont tous égaux, tous aussi puissants, mais il y a une certaine un certain ordre. Et comme c'est dit, mais il y a seulement Krishna qui le sait, là. Dans le sens que laquelle émanation plénière de Krishna est la première ou la dernière, mais en fait, elles existent toutes en même temps. Mais par contre, c'est dit que Krishna est Dieu, la personne suprême originelle, et sa première émanation plénière, c'est Balaram, c'est Baladev. Puis de Baladev, il y en a d'autres, il y en a d'autres. Alors on arrive à, il y a Baladev, ensuite il y a Sankarshan, et Sankarshan, il y en a quatre. Finalement, on arrive à Narayan, ainsi de suite. Alors, je suis pas très, 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 disons,
Mais est-ce qu'ils s'émanent tous de Krishna ou de Baladev? Après, il y a une autre émanation de Bala à travers Baladev, de son énergie, puis après d'autres, ou c'est tout à travers Krishna, Baladev, Shiva, ou toujours le centre, c'est Krishna, c'est-à-dire partout de Krishna, ou
Elles
il y a...
partent toutes de Krishna, mais c'est dit que parfois c'est des émanations qui sont des parties de parties. Alors ça, c'est, il y a un verset dans le Srimad Bhagavatam, si je ne m'abuse là, c'est premier chant, troisième chapitre, verset 43, qui parle justement des émanations de Krishna. En anglais, on dit expansion of Krishna. En français, ils traduisent ça par émanation de Krishna. Alors, 1, 3, 43, je pense, ça parle des expansions, des émanations de Krishna. Le Prabhupada doit donner une... On va aller le voir pour le fun. Alors, Srimad Bhagavatam. C'est où ça? Un minute. Sages. Non, c'est pas un 3,43. Ouais, un 3,43. Oui, c'est ça. Faut j'aille dans le troisième chapitre, un moment. Création, troisième chapitre. On va en bas. C'est ça. Non, c'est pas 43. C'était Chansa, Pumsam. Bon, c'est pas 1,343, mais il y en a. À ce moment-là, c'est peut-être dans le deuxième chapitre. En tout cas, je vais pas perdre du temps à chercher ça, là. Mais c'est ça qui est expliqué. Et Krishna d'abord, ensuite les émanations. La première émanation plénière de Krishna, c'est Balaram. Alors, quant à Srimati Radharani, c'est sa puissance de plaisir. Alors, si Krishna veut avoir du plaisir, là aussi, il a une émanation de lui-même qui est Radharani, cette émanation-là est appelée Ladini Shakti, sa puissance de plaisir. Alors, Ladini Shakti veut dire qui la puissance qui procure du plaisir. Alors, ça, c'est assez spécial. Donc, si vous y pensez bien, là, mettons, je suis un créateur, et supposons que j'avais ce pouvoir-là, là, je crée quelque chose qui va me procurer du plaisir.
Comme la crème glacée, c'est une ça porte du plaisir. Manger une crème glacée,
Ça
c'est une.
dépend. Ça dépend. Faut pas que tu prennes pour acquis que manger de la crème glacée, ça procure du plaisir. Des fois, ça peut procurer de la souffrance aussi. Mais là, évidemment, en général, trois quarts du temps, c'est du plaisir. Mais si t'as une dent qui te fait mal, puis une dent sensible au froid, tu manges de la crème glacée, attention. Si le médecin a dit, faut pas que tu manges du froid, ou faut pas que t'aies quelque chose de froid dans la gorge, parce que une opération, quelque chose, la crème glacée n'est pas conseillée. Si tu souffres de diabète, ton diabète est très élevé, là, tu t'en vas manger de la crème glacée, tu es en train de te tirer dans le pied. Alors, c'est pas garanti. Mais en général, dans des conditions normales, oui, effectivement, ça donne du plaisir. Mais dans le cas de Srimati Radharani, Krishna, il veut toujours être avec Radharani. Et c'est divertissement d'amour conjugal avec Srimati Radharani. Ça se passe à Vrindavan. Et puis, c'est éternel. Alors, ça, c'est les divertissements de Radha et Krishna.
C'est pas
Krishna,
un
pardon?
non, seulement à dire, c'est pas quelque chose que Krishna se tanne. C'est toujours, il en veut toujours. C'est un plaisir qui n'a pas de fin.
Exactement. Et c'est dit que les Vaishnavas sont plus des dévots de Radharani que de Krishna. Alors, quand vous allez à Vrindavan, t'entends ça toute la journée, il y a des gens qui disent Jai Radhe, ils voient un
Adhéra.
autre Radhe Radhe, ils voient un autre dévot, Radhe Radhe, Jai Radhe. Là, ça se répond comme ça. Alors, nous, comme on est des dévots, disons, qui viennent d'Occident, ben, quand on va à Vrindavan, ben, tu sais, les habitants de Vrindavan ne sont pas tous pareils. C'est comme dire tous les êtres humains ne sont pas tous pareils. Ben, c'est la même chose, dans un sens. Mais ils sont tous dévots de Krishna, ça c'est sûr. Fait que tout le monde est complice à Vrindavan. Fait que si tu les regardes, mettons, si les yeux se croisent, puis tu dis Haribol, soit ils disent Haribol, soit ils disent Jai Radhe ou Radhe Radhe. Toi, il faut que tu, pratiquement parlant, il faut que tu réciproques aussi. Pas par question de politesse, c'est pas une question de politesse, ça. C'est pas une question de, comment on peut dire, de règles sociales. Pas du tout. C'est ton cœur qui c'est plus fort. C'est ton cœur qui répond. Pourquoi? Parce que tu as un amour, une affection pour Krishna ou pour Radha et Krishna. Et il y a un point intéressant dans ce qu'on vient de lire. Il y a un point vraiment intéressant. Et ça, c'est à la page 27 en haut. Alors, gardez bien ça. Alors, la deuxième phrase, c'est marqué, comme l'explique la Brahma Samhita, Premanjana Churita Bhakti Vilochanena, Santak Sadeva Hridayeshu Vilokayanti, ils ont un amour indéfectible pour le Seigneur. Suite. Parce que ce lien d'amour les unit toujours à Dieu, les Santas n'acceptent rien pour eux, sans l'avoir offert au préalable, c'est ça, à la personne suprême qu'on appelle Govinda, etc., etc. Alors, dans la Bhagavad Gita, il y a un autre verset où, là, cette fois, c'est dans un sens contraire que Krishna dit, pour celui qui m'offre avec amour et dévotion une feuille, une fleur, une feuille, une fleur, un peu d'eau, je vais l'accepter, cette offrande-là, si c'est offert avec amour et dévotion. Alors, la notion d'amour, Krishna, il sait très bien que c'est ça que ça prend pour que lui accepte une offrande. Et ici, on dit, parce que les dévots ont un amour indéfectible pour le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'acceptent jamais de nourriture sans l'avoir offert avant à Krishna. Alors, à cause de cette relation d'amour entre Krishna et le dévot, et le dévot et Krishna. C'est une relation d'amour. Alors, ça, c'est important. C'est l'essence de la dévotion, du bhakti yoga. Et c'est merveilleux comme ça. Et c'est éternel. Il n'y en a pas de fin, comme on dit tantôt, là. Tu veux pas voir la fin de ça. Tu peux pas dire, ah ben, maintenant c'est la 500e fois que j'ai offert quelque chose à Krishna. J'ai atteint mon quota, c'est fini pour le reste de ma vie. Tu peux pas faire ça. C'est stupide. Pourquoi? Parce que c'est la base du plaisir. Le plaisir, c'est de faire plaisir à Krishna. Si quelqu'un pense, le plaisir, c'est indépendant de faire plaisir à Krishna. Ben, tout le monde le sait, là, par l'expérience personnelle, dans la vie matérielle, c'est juste ça. Que le monde essaie de trouver du plaisir à se faire plaisir par eux-mêmes. Tandis que la réalité, c'est oublie ça, le plaisir par toi-même, mais essaie de plaire à Krishna, puis ça, automatiquement, ton plaisir va venir. Et ça, la conscience de Krishna est sublime, et c'est le contraire de la vie matérielle. C'est la conscience de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
C'est donner plus que de recevoir.
Oui. Mais tu
C'est donner
reçois.
avec amour. Donner avec amour.
Ouais, tu reçois beaucoup, par exemple. Tu reçois en fait vraiment beaucoup et peut-être plus que tu es capable de donner. Alors, on va expliquer dans le sens que le Seigneur Chaitanya dit dans les saints noms, il y a toutes les puissances investies de Krishna. Et on peut facilement approcher Krishna par le chant de ces saints noms. Mais il dit, malheureusement, je n'ai pas d'attraction. Alors, les saints noms, c'est Krishna lui-même. Alors, on n'a pas idée de ce qu'on est en train de chanter. On n'a pas pleinement réalisé. Et un jour, on va réaliser que, et ça, c'est dans le mantra 5 de Upadeshamrita, le dévot réalise que graduellement, qu'il n'y a pas de différence entre le Saint-Nom et Krishna lui-même. À ce moment-là, c'est l'extase, l'extase totale. Est-ce qu'il y a des questions?
J'en aurais une question.
Oui.
Mais quand on dit offrir à Krishna, qu'est-ce qu'on doit ressentir à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on doit penser à ce moment-là pour dire qu'on offre à Krishna notre nourriture?
Ben, disons, si c'est juste la nourriture, si on parle juste d'offrir de la nourriture, il y a des prières standards. Et si on ne connaît pas les prières, on peut chanter Hare Krishna avec l'idée que, oh mon cher Krishna, veuillez accepter cette offrande. C'est très simple. Et, par contre, si c'est pas de la nourriture, on va offrir, pratiquement parlant, notre conscience dans l'arrière-plan de ce qu'on est en train de faire ou de ce qu'on a comme obligation de faire. Comme par exemple, un dévot. Supposons un dévot qui a un job. Prabhupada dans Bhagavad Gita donne l'exemple d'un dévot qui travaille dans une usine. Alors, le dévot qui travaille à l'usine, Prabhupada dit, comparé à un autre qui travaille dans la même usine, il y a une différence énorme entre la conscience de un puis la conscience de l'autre. Et Prabhupada explique, le dévot qui travaille dans l'usine, lui, va offrir le fruit de ses actes, le fruit de son labeur à Krishna. Tandis que l'autre, il n'a pas cette conscience-là. Qu'est-ce qu'il va faire avec son argent? Il n'y a aucune obligation religieuse. On prend pour acquis, là. Alors, il va prendre son argent, il va faire des choses que c'est pour sa satisfaction des sens, en quelque part. Il y en a qui dépensent tout leur argent, aussitôt la paye est arrivée, ils vont aller boire au détriment de leur famille ou de leur entourage. Ça, c'est vraiment pas un cadeau, là. En tout cas, si quelqu'un est conscient de Krishna, il agit, il pense, il parle dans cette conscience qui est en train de faire quelque chose comme une offrande à Krishna. Est-ce que ça répond à la question?
Mm-hmm.
Ou pas vraiment?
Non, c'est ça, c'est que le résultat de son travail, c'est pour satisfaire Krishna et non sa satisfaction personnelle. Il faut qu'il donne ça à Krishna, sa satisfaction-là. C'est Krishna qui doit être satisfait de son travail, en fait.
Oui, la conscience dans son travail.
Ouais.
Alors, par exemple, si tu travailles, mais tu peux te poser une question à la fin du travail, à savoir, est-ce que je pensais à Krishna pendant ce travail-là?
Mm-hmm.
Ah, la réponse est oui ou la réponse est non, là. C'est pas vraiment, tu peux pas dire, je pensais à Krishna, mais en même temps, j'oubliais Krishna. Ou j'ai oublié Krishna, mais en même temps, je pensais à Krishna. C'est soit un, soit l'autre. Alors, tu peux aussi penser, oh boy, je m'aperçois que je pensais pas à Krishna. Alors là, je me ressaisis. Mettons, je chante Hare Krishna ou j'écoute une classe de Prabhupada ou quelque chose pour, mettons, 20 minutes. Mais tout le reste avant, mettons, ça fait 3 heures que je pense pas à Krishna plus que ça, là. C'est quelque chose. Il y a personne qui tient, disons, Krishna, il tient un petit livre, là, OK, il a passé, il fait 3 heures qu'il passe pas, là, etc. Krishna, il sait, lui. Mais un dévot, il fait un effort. Il fait un effort de se rappeler Krishna. Et c'est comme une offrande à Krishna. Tu peux pas non plus penser à Krishna avec une idée que très discutable, à savoir que tu veux être fier de ta performance dévotionnelle. Mettons, tu te dis, ah, ben là, j'ai pensé à Krishna 7 sur 7 aujourd'hui. Hey, là, je suis bon. Là, je suis vraiment un bon dévot. Fais attention. Le lendemain, tu vas penser à Krishna peut-être juste 7 secondes et pas 7 sur 7. C'est parce qu'il n'y a pas de place pour l'orgueil dans le service de dévotion. À Krishna, il va te couper sa côte, tu vois, ça, c'est sûr que ça va être corrigé et tu vas l'apprendre de la façon que Krishna aura jugé bon pour toi, pour te montrer une leçon. C'est comme une fois, il y avait une histoire, je pense. C'était avec Narada Muni. Puis, il y avait un défi. Le défi était d'amener un verre d'eau rempli à ras-bord de point A à point B. Et entre A et B, il y avait différents obstacles. Il fallait pas qu'une seule goutte d'eau tombe. Alors, Narada ou un autre dévot, mais je pense que c'est Narada Muni. Alors, fait très attention, puis attention. Puis là, finalement, il arrive au but et le verre d'eau est encore plein, mettons. Là, Krishna, il demande, combien de fois t'as pensé à moi pendant ce temps-là? Il pensait plus au verre d'eau qu'à Krishna. Alors, ça, c'est la conscience de Krishna. C'est que le verre soit plein, à moitié plein, whatever. Il faut penser à Krishna.
Le moment, tu penses à lui.
Ouais, exactement.
Mais dans le fond, quand tu rentres travailler le matin, si tu donnes ta journée à Krishna pour sa satisfaction, j'imagine que ça va nous aider à penser à Krishna parce qu'on le fait pour lui à partir du matin.
Exactement. C'est ça le concept, c'est de tout faire pour Krishna. Et ça, c'est individuel. Tu sais, je sais pas, moi, c'est un dévot travaille dans une boulangerie. Ben, son travail de boulangerie. Puis un autre travail pour assembler des autos. Puis toute la journée, c'est, en tout cas, c'est les outils mécaniques très bruyants, puis c'est la production à la chaîne, etc. Mais d'une façon ou d'une autre, faut que l'un et l'autre essayent de penser à Krishna. Et c'est l'exemple est donné aussi dans la Bhagavad Gita, où Arjuna, lui, c'est encore bien plus un défi, parce qu'il faut qu'il se batte. C'est sur un champ de bataille. Alors, sur un champ de bataille, là, t'as pas le temps de penser ben gros, là. Tu agis et tu réagis. Il faut que tu te défendes, puis en même temps, il faut que tu tues aussi. Puis ça, c'était la position d'Arjuna. Il faut qu'il se batte.
Tu penses à sauver ta vie.
Tu sauves ta vie aussi. Et ouais. Puis, il faut qu'il tue les membres de sa famille, de ses proches. Et il faut qu'il pense à un niveau spirituel. C'est Krishna qui veut ça. L'âme est éternelle, le corps est temporaire, il y a juste le corps qui va périr, l'âme va continuer. Avec ce genre d'entendement-là, puis ça va vite, là. Tu sais, c'est... Comme Prabhupada dit, la Bhagavad Gita a été récitée en 30 à 45 minutes.
Oh.
700 versets en 30 à 45 minutes et Arjuna a compris du premier coup. Nous, ça va nous prendre des années à comprendre toute la Bhagavad Gita, là. Il n'y a pas de comparaison entre nous et Arjuna. Mais la Bhagavad Gita, c'est l'essentiel. C'est de la conscience de Krishna, c'est toute la philosophie dans Bhagavad Gita. Alors, on fait de notre mieux, on est des dévots du Kali Yuga, et puis on essaie d'être sincère et puis de s'imprégner de la conscience de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
C'est juste pour dire, le but ultime, c'est de penser 24 heures sur 24 à Krishna. C'est ça
ouais.
Le but ultime, avec amour et dévotion.
Oui, c'est ça. Alors, c'est pourquoi c'est dit, la seule qualification dans la conscience de Krishna, c'est la sincérité. C'est la sincérité, si on peut dire, qui éponge tout. On peut avoir des imperfections, mais Krishna, il voit que dans notre cœur, on est sincère, qu'on veut être conscient de lui. Et puis, Krishna, c'est ça qui prend. C'est ça qu'il accepte. Mais il faut pas abuser. Faut pas abuser. C'est comme, par exemple, c'est dit, la sixième offense au chant des saints noms, c'est de commettre des actes coupables en se fiant sur le saint nom pour effacer les réactions, pour échapper aux réactions. Ça, c'est, Prabhupada dit, ça, c'est la plus grande offense. On peut pas être pardonné pour cette offense-là. Alors, faut être honnête, faut vouloir agir avec pureté et rester dans la pureté, comme le veut la conscience de Krishna.
Ça doit faire en sorte qu'on rend un grand service à l'humanité, parce qu'au bout de ligne, j'imagine, ça élève la conscience de l'humanité de devenir un pur dévot avec Krishna. Puis...
Oui, comme c'est dit.
Ça doit avoir une influence sur l'ensemble.
Ça a une influence sur l'ensemble qu'on ne peut pas déterminer par soi-même. Mais la bonne chose qu'on peut comprendre, c'est que si on est conscient de Krishna soi-même, n'importe qui ira directement ou indirectement le moindre service à un dévot, c'est à son profit spirituel. Tu sais, comme des fois, moi, mettons, tu vas au magasin, OK? Tu vas à l'épicerie, puis mettons, t'as échappé quelque chose par terre. Mettons, t'as échappé une tomate. Tu t'es acheté une douzaine de tomates, il y en a une qui est tombée par terre. Puis le gérant du magasin, il se dépêche pour la ramasser pour toi, puis il te la remet. Ça a l'air très anodin. Mais toi, tu es un dévot de Krishna. Tu sais que ces tomates-là, ils vont être offertes à Krishna. Alors, sans le savoir, cette personne-là a fait un service. OK, je remets la tomate, mais laquelle tomate va être destinée à être offerte à Krishna? Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que le dévot a la conscience de Krishna, puis il est dans cette conscience-là. Alors, si la personne n'est pas dévote, n'est pas dévot, ben c'est juste une action ordinaire qui a une réaction aussi. À savoir, bon, ben, je t'ai remis ta tomate. Dans ta prochaine vie, toi aussi, tu vas me remettre une tomate. Ça, c'est le karma, action-réaction. Mais dans la conscience de Krishna, il n'y a pas d'action-réaction, dans le sens qu'il n'y a pas de réaction. Tout est fait pour Krishna, pour le plaisir de Krishna. Alors, ça, c'est des petites choses. Ça semble bien anodin. Comment on dit, ça passe sous le radar. Mais en fait, c'est là. Il y a plein de petits services qu'un dévot va recevoir pendant sa vie. Mais parce qu'il est conscient de Krishna, les gens qui rendent ces petits services-là vont avoir un certain bénéfice spirituel, puis ça, ben, c'est tant mieux. C'est tant mieux pour eux autres. Puis le dévot ne demande pas mieux que ça se passe comme ça. Puis le dévot, en fait, prie à Krishna que pour tout le monde ait le bénéfice de la conscience de Krishna. Un dévot, c'est ça, il veut que tout le monde ait ce que lui, il a eu, la conscience de Krishna. Alors, c'est pas tout le monde qui est prêt à être, qui est assez ouvert à la conscience de Krishna, mais le dévot est quand même conscient. Il souhaite. Alors, c'est dit, on offre notre hommage au Vaishnava, au dévot, et on dit que j'offre mon hommage au Vaishnava, au dévot, qui ont cette capacité d'exaucer tous les désirs, de satisfaire tous les désirs. Mais satisfaire tous les désirs, il y a des désirs matériels, puis il y a des désirs spirituels. Mais si on regarde les désirs spirituels, qu'est-ce que tout le monde veut? Sans exception. C'est quoi la
À part de
réponse?
l'argent.
Ça, c'est matériel. On parle de spirituel.
Ah, spirituel, c'est
L'amour.
de pas souffrir, d'être dans le bonheur, constant, là.
Ouais, qu'est-ce que tout le monde veut sans exception?
Être éternel.
Ça, c'est de un. Il y en a trois.
Sakshitananda.
Ah ben oui, il y a donc ça. C'est ça. Tout le monde veut l'éternité, la
Connaissance.
connaissance et la félicité. Tout le monde veut ça. Il y en a qui sont conscients, il y en a qui sont pas conscients. Mais veulent l'éternité. Personne ne veut mourir. Ils veulent la connaissance. Il y a personne qui aime être laissé dans l'ignorance. Tout le monde veut savoir quelque chose. Et félicité, qui aime souffrir? Il y a personne qui veut souffrir. Tout le monde veut avoir le bonheur, veut être heureux. C'est la nature de l'âme de toujours avoir le plaisir, du plaisir. C'est Ananda. Mais l'Ananda n'est possible qu'avec Krishna. Il n'y a pas d'Ananda dans le monde matériel. Parce que dans le Nectar de dévotion, Prabhupada dit, il n'y a pas même un soupçon de bonheur dans le monde matériel. Alors, évidemment, quelqu'un peut dire, ben, il y a du monde qui sont heureux, j'en connais. En tout cas, ils ont de l'air heureux, en tout cas, ben oui, ils ont de l'air heureux. une grosse cabane à $1 million, trois voitures dans son entrée, tous les enfants sont majeurs et vaccinés à l'université, il y en a qui est médecin, il y en a qui est avocat. Hey, la vie est belle. Mais jusqu'à quel point la vie est belle, ça, c'est un autre paire de manches. Ça, c'est la vraie question. Hein?
C'est tout du matériel, ça, la voiture, la maison. Mais à l'intérieur, est-ce qu'ils sont heureux? C'est pas le matériel. Le matériel est temporairement dans un petit bonheur tranquillement, puis après, il part.
Oui, mais le point, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la vie matérielle qui
le
fout
matériel.
tout, qui fait tout, comment dire, pas qui fait tout, qui fout tout à l'envers. La naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Alors, le bonheur que tu peux avoir, c'est un bonheur temporaire, mais qui va pas t'épargner les souffrances liées à l'existence matérielle. La naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Alors, des fois, Prabhupada dit, l'âme conditionnée souffre tellement qu'elle souhaite mourir. Et ici, maintenant, en Occident et au Québec, pas si longtemps que ça, ils approuvent l'aide médicale à mourir comme étant une solution pour s'épargner de souffrir, mettons, à l'extrême d'une maladie qui te fait terriblement souffrir. Alors, pourquoi pas arrêter cela, puis on passe à une autre vie. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que la loi du karma fait que si ton destin, c'est de passer à travers une certaine quantité de souffrance, c'est pas dans cette vie-ci, mais c'est dans l'autre vie que ça va te rattraper. Tu peux pas échapper à ça. Et ça, c'est la loi du karma. Et alors, pourquoi investir, si on peut dire, beaucoup d'espoir dans des solutions stop gap solution en anglais, bush through.
C'est temporaire aussi. C'est
des solutions bush through temporaires. Toi, pourquoi mettre notre confiance là-dedans? Et ça, c'est disons, soutenu ou approuvé par ou énoncé par Prahlad Maharaj qui dit: moi, personnellement, j'ai pas de problème, mais je me fais beaucoup de soucis pour ceux qui font beaucoup de plans en vue d'avoir le bonheur matériel. Et Prahlad Maharaj dit ça après que le Seigneur Nrisimhadev se soit révélé à lui. C'est parmi ses prières. Alors, il dit, moi, j'ai pas de problème, c'est pour les autres que j'ai de la peine pour eux autres. Alors, Prahlad Maharaj, lui, a toujours été un prédicateur dans l'âme. Même quand il était un enfant, il prêchait à ses petits amis, puis il s'est attiré les foudres de son père, Hiranyakashipu, justement parce qu'il prêchait. Puis son père lui demande, où c'est que t'as appris tout ça? Prahlad lui dit, de la même source que de toi. Cette source-là, ben, c'est Vishnu. Il a appris. Alors, un dévot a une façon bien particulière de mener sa vie en termes de conscience de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires?
Parce que les gens, dans le fond, qui sont très matérialistes, c'est des gens qui souffrent. Et ce qu'ils font, c'est de se créer du bonheur. C'est tout ce qu'ils cherchent à faire, parce qu'ils souffrent, ils ont mal intérieurement, ils sont plus ou moins conscients de ça, peut-être. Mais par le matériel, bien, ils essayent d'apaiser leur souffrance en se créant du bonheur. C'est éphémère, puis ça les fait creuser encore un peu plus.
Ouais, et ça, comme Jésus disait, pardonnez-leur quand ils ne savent ce qu'ils font. Ben, ils ne savent ce qu'ils font, là, c'est ça. C'est les gens, une fois qu'ils sont recouverts par l'énergie matérielle, ils n'ont pas d'idée où est-ce qu'ils s'en vont, où est-ce qu'ils sont situés dans le moment, puis où est-ce qu'ils s'en vont dans le futur. Alors, ils cherchent, ils essaient, et c'est malheureux à dire, mais c'est comme les animaux. Les animaux sont menés par leur sens. Et puis, on a parlé ici, là, des êtres humains. OK, on a dit ça ici.
Les êtres humains pires que les animaux, en fait.
C'est ça. Que faut-il dire des hommes pires que les animaux qui n'ont que faire par leurs excès, dérogeant aux lois de la nature? Alors, quand j'ai écrit ça, là, je pensais, par exemple, des gens qui boivent à l'excès. T'sais, même comme au Québec, ils disent la publicité de la Société des alcools, c'est la modération a bien meilleur goût. Même la modération t'envoie en enfer. Alors, ils savent pas. Ils savent pas qu'est-ce qui est vraiment bon. Et qu'est-ce qui est vraiment bon, c'est qu'ils devraient fermer la Société des alcools. Ça serait vraiment bon. Mais les gens, ça créerait un enfer sur Terre. Si le gouvernement enlevait ça, il y aurait tellement de mécontentement, une révolution, c'est faux. Juste parce que les gens sont attachés à ce point-là. Et la même chose, tu leur dis, on ferme toutes les usines de cigarettes, ça va être l'enfer, la révolution. Et puis les abattoirs aussi.
Les abattoirs, ouais, j'y pensais.
Ouais.
Alors là, non, la côte de bœuf grillée le dimanche, alors là, mais ça va pas ou quoi?
C'est ça.
Ouais, non, c'est...
C'est la société vraiment a les deux pieds, en fait, est enfoncée par-dessus la tête dans les activités pécheresses qui sont le propre du Kali Yuga. Puis là, ben, si t'enlèves le sexe illicite, là. Ça aussi, c'est un des plus gros morceaux aussi. C'est comment on peut dire? Il y en a partout, il y en a tout le temps, et puis d'une facilité inouïe à avoir aussi. Et en veux-tu, en v'là. Et puis c'est même une industrie, l'industrie de cinéma. En tout cas, on n'a pas besoin de faire plus que ça là-dessus. Et etc., etc. Alors voilà, on va continuer. Chapitre 3, verset 14, Benoît, s'il vous plaît.
Oui.
Faut changer la page parce que j'ai pas le livre.
Ah, OK, page 27. Ouais, excusez-moi, Madame Ananda. On t'attend? On t'attend, Benoît?
Okay, c'est Bhagavad Gita 3.14.
Oui, c'est ça.
Hana, Hanad, Bhavanti, Bhutani, Parjanya, Hana, Sambhava, Yajna, Bhavati, Parjanyo, Yajna, Karma, Samudbhava. Samudbhava. Hana, des céréales, Bhavanti, trois croisses, Bhutani, les corps matériels, Parjanya, des pluies, Anna, des céréales, Sambhava, la production, Yajna, par l'accomplissement du sacrifice, Bhavati devient possible, Parjanya, la pluie, Yajna, l'accomplissement du Yajna, Karma, devoir prescrit, Samudbhava Nede. Le corps de tout être subsiste grâce aux céréales dont les pluies permettent la croissance. Les pluies résultent de l'exécution du yajna sacrifice qui lui naît des devoirs prescrits. ton art est porté. Srila Baladeva Vidyabhushana, éminent commentateur de la Bhagavad Gita, a écrit Ye Hendrali.
Ok, passe le sanskrit.
Le Seigneur suprême, aussi appelé Yajna Purusha, le bénéficiaire ultime de tous les sacrifices, est le maître de tous les devas qui le servent comme les membres du corps servent le corps tout entier. Les devas tels Indra, Chandra, Varuna sont mandatés pour gérer les affaires de l'univers et les Védas recommandent de leur offrir des oblations pour qu'ils fournissent l'air, la lumière et l'eau indispensables à la production des aliments de l'homme. Toutefois, lorsqu'on adore Krishna, les devas, qui sont en quelque sorte les membres de son corps, sont automatiquement vénérés. Il n'est donc plus nécessaire de leur rendre un culte séparé. Ainsi, les dévots du Seigneur qui suivent la voie de la conscience de Krishna offrent à Dieu leur aliment avant de les manger. En agissant de la sorte, ils nourrissent leur corps spirituellement. Et non seulement toutes les conséquences de leurs actes coupables se trouvent réduites à néant, mais leur corps devient immunisé contre toute forme de contamination matérielle. Lors d'une épidémie, on vaccine les gens pour les protéger. De même, en prenant de la nourriture d'abord offerte au Seigneur, on peut résister à toutes les attaques de l'énergie matérielle. Et celui qui agit ainsi est un dévot du Seigneur. De cette façon, l'homme conscient de Krishna, qui ne mange que de la nourriture offerte à Krishna, peut effacer tous les effets de sa contamination matérielle passée, qui sont autant d'obstacles à sa progression vers la réalisation spirituelle. Par contre, ceux qui n'agissent pas de cette façon ne font qu'augmenter la somme de leurs péchés. Ils se préparent ainsi à obtenir un corps de chien ou de porc dans leur prochaine vie, où ils devront souffrir des conséquences de leur faute. En résumé, nous dirons que l'énergie matérielle est source de contamination et que celui qui est immunisé par le prasada, la nourriture offerte à Vishnu, échappe à la contagion. Tout autre en est victime. Les céréales et les légumes sont des aliments à part entière. L'homme se nourrit de céréales, de légumes, de fruits, etc. Alors que l'animal, lui, mange de l'herbe, des plantes, des végétaux et des résidus céréaliers. Les hommes qui sont habitués à manger de la chair animale dépendent eux aussi de la production des végétaux qui souvent a nourri les bêtes. Tout le monde dépend donc pour sa survie des produits de la terre et non de ceux des usines. Or, la terre, pour produire, a besoin de pluies, lesquelles sont sous le contrôle d'Indra, de Chandra, de Surya, qui tous sont des serviteurs du Seigneur. Comme on ne peut satisfaire le Seigneur que par le sacrifice, celui qui ne l'accomplit pas souffrira d'un manque de nourriture. Telle est la loi de la nature. Voilà pourquoi il nous faut accomplir des yajnas, et plus particulièrement Sankirtana Yajna, recommandé pour cet âge, ne serait-ce que pour ne pas avoir à manquer de nourriture. Si un homme se donne la peine d'être formé par un maître spirituel authentique, non seulement il gagnera un véritable savoir vidya, mais sera épargné de toute contamination matérielle. Telle est la beauté du processus de la conscience de Krishna, tel qu'institué par Srila Prabhupada.
Jai, Hari Bol. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Moi, je dirais à la lecture de ce qu'on vient d'entendre, après avoir lu ça, je vois l'importance cruciale d'offrir à Krishna notre nourriture.
Absolument.
Question de survie, à quelque part.
Oui, absolument. Sinon, on est lié. Comme Krishna dit, celui qui n'offre pas sa nourriture ne mange que du péché. Alors, si on mange juste du péché, comme on vient de lire, un, on est un voleur. Deux, on est un voleur, puis quoi donc? Je dis ça, on est un voleur. D'habitude, c'est facile à se rappeler, ça. Un pêcheur. On est à la fois un pêcheur et un voleur. Alors,
Parce que c'est, ça nous appartient pas, c'est ça.
ça ne nous
Tout
appartient
appartient
pas. Ouais. Mais supposons que quelqu'un, un dévot, donc là pour qui qu'on parle d'un dévot, OK? Qu'un dévot comme nous, qui allons pas au temple si souvent que ça. Puis là, d'un coup, ça donne qu'on va au temple. Une des choses, qu'est-ce qu'on va remarquer au temple, là? Oubliez la salle du temple et tout ça, là. Supposons, vous montez dans la salle de prasad d'en haut. Qu'est-ce que vous allez remarquer?
avec un gros choix de nourriture offerte à Krishna, veut dire qu'on va manger là, de la prasad.
C'est ça, exactement. Et le prasad. Et quel effet que vous fait le prasad?
Étonnant, heureux, on est bien, on
Oui.
socialise, on a envie d'exprimer, c'est comme toujours un party, c'est une fête, c'est agréable d'être entouré de dévots, puis manger du prasad, d'offrir. On sent une pureté, on sent bien, on est élevé là.
C'est
Exactement.
ça nous purifie en fait.
Ben, c'est en plein ça. C'est l'effet purificateur du prasad. Alors, là, quand tu es chez toi, oui, tu offres ta nourriture à Krishna, etc., etc. Mais là, quand tu arrives au temple, mettons dans la salle de prasad, et supposons c'est pas la fête du dimanche, là, mettons, tu as été, tu es là pour au petit déjeuner avec les dévots. Et surtout le Mahaprasad, juste à savourer le Mahaprasad, tu le sens. Tu le sens quand ce prasad arrive sur ta langue. C'est vraiment une nourriture offerte à Krishna. Et là, tu as tous les bénéfices. Il n'y a aucun doute parce que la nourriture a été offerte selon le processus que Krishna accepte. C'est-à-dire, c'est cuisiné de A à Z avec la bonne sélection d'aliments. C'est cuisiné par des dévots qui sont initiés ou qui devraient être initiés dans la cuisine. Et c'est offert par un pujari qui est deux fois initié, que ça s'en va sur l'autel. Le Mahaprasad est déposé dans une assiette spéciale exprès pour le Mahaprasad, la nourriture offerte à Krishna. Ensuite, la vaisselle est bien nettoyée, essuyée, tout. C'est monté en haut, offert aux dévots, distribué aux dévots. Puis même avant de prendre cette nourriture-là, les dévots chantent la prière, disons, avant de prendre le prasad, une prière de Bhaktivinoda Thakur. Puis là, tout ce processus-là, là, ça fait en sorte que il y a pas d'équivalent entre la nourriture qui est pas offerte et la nourriture offerte à Krishna. Ça goûte pas pareil. Et ça purifie. Ça purifie ton existence. Et puis, il y a pas mieux que ça. Qu'est-ce que tu veux mieux que du prasad? Alors,
C'est
Prabhupada avait...
éprouvé. Excusez-moi, après que
Allez,
je.
allez, dis.
Ben, c'est éprouvé par un Japonais qu'il prenait deux verres d'eau. Un lui donnait de l'amour au verre d'eau, il disait, ah, t'es beau, puis tout ça, toutes sortes de choses. Puis l'autre, c'était négatif. Le verre d'eau négatif, l'eau est devenue sombre. Et l'autre, avec l'amour, est resté brillante, tu vois. Alors,
OK.
le mantra et toute l'offre, ça doit être spécial aussi, que ça doit faire à la nourriture.
Oui,
Toute
alors
l'offre.
comme on a lu ici, c'est que la nourriture est spiritualisée. Elle n'est plus matérielle. Et comme on a lu ici, là, à la page 28 en haut, C'est dit ici, on le dit. Ainsi, les dévots du Seigneur qui suivent la voie de la conscience de Krishna offrent à Dieu leurs aliments avant de les manger. En agissant de la sorte, ils nourrissent leur corps spirituellement. Et non seulement toutes les conséquences de leurs actes coupables se trouvent réduites à néant, mais leur corps devient immunisé contre toute forme de contamination matérielle. Ça, c'est ce qui se passe quand on mange du prasad. Alors, c'est une nourriture spirituelle. Elle n'est pas contaminée, cette nourriture-là. Alors, comme c'est dit, là, le prasad n'est jamais contaminé. Et c'est la nourriture spirituelle. Normalement, Prabhupada explique ça aussi, de la nourriture dans la vertu, dans la passion, dans l'ignorance. On ne devrait pas manger de nourriture qui est dans l'ignorance. Ça veut dire que c'est une nourriture qui est pas fraîche et qui est en voie de décomposition, quelque chose comme ça. Mais il dit que on peut manger une nourriture qui est comme apparemment dans le mode de l'ignorance, mais parce que c'est du prasad, le Prabhupada dit, si on est suffisamment avancé, on peut le faire. Alors, il y a des exemples des grands dévots. C'est Srila Jiva Goswami, qui lui mangeait les restants de nourriture qui est en dehors du temple de Jagannath, qui était tombé et qui était dans un très mauvais état et que même les vaches n'en voulaient pas. Mais le Jiva Goswami en prenait un petit peu puis en mangeait pareil. Parce que c'était offert à Krishna, offert à Vishnu. Alors, c'est comme Prahlad Maharaj, Prabhupada explique aussi, Hiranyakashipu voulait tuer son fils. Et un de ses plans de match, c'était d'obliger la mère de Prahlad à mettre du poison dans la nourriture de Prahlad. Et Prahlad mangeait pareil, puis il ne mourait pas. Pourquoi? Parce qu'il avait offert sa nourriture à Krishna. Alors, le poison n'agissait pas sur Prahlad Maharaj. Alors, ça, c'est... On ne peut pas imiter ça. Tu sais, on peut pas dire... demander à sa femme, mais moi, donne un peu de poison là-dedans, c'est du prasad, je vais en manger pareil. On peut pas faire ça. Parce que c'est Krishna qui contrôle qu'est-ce qui va arriver. Alors, ça serait vraiment stupide de notre part de faire comme ça. Puis ça serait une offense aussi. Parce que qu'est-ce qu'on a d'affaire à manger volontairement un prasad empoisonné? Ça a pas de bon sens, là. Mais disons, concours de circonstances avec Prahlad Maharaj, ça c'est pas arrivé pour lui. Parce qu'il offrait sa nourriture à Krishna. Et Krishna est, disons, a comme purifié cette nourriture d'effets négatifs. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Oui, j'avais une question.
Oui.
Au niveau de la nourriture, j'imagine qu'on peut pas offrir à Krishna n'importe quoi comme nourriture non plus. Ça prend de la bonne nourriture saine qui va nourrir notre corps là, comme il faut. On peut pas y offrir du McDo, il me semble, je sais pas.
on va essayer de situer. Premièrement, la nourriture qui peut être offerte à Krishna, c'est une nourriture dans la vertu. Alors, nourriture dans la vertu, Prabhupada dit, c'est composé de fruits, légumes, grains, céréales et produits laitiers. Avec ces aliments dans la vertu, Prabhupada dit, il y a des milliers de préparations qui peuvent être faites. Alors, ça, c'est une question d'apprendre, là, si on ne sait pas trop comment se débrouiller avec ça, mais il y a des livres de dévots, de dévotes. Dans le mouvement de la conscience de Krishna, un livre qui est assez populaire, Un goût supérieur. un dévot que je connais quand j'étais en France qui a écrit ce livre-là, qui s'appelle Adhiraj Das. Il y a le fameux livre de Yamuna. Et ça, je sais pas si est en édition disponible, mais c'est une brique, celui-là. Épais comme ça. C'est les recettes que Yamuna, une disciple de Prabhupada, très, très proche de Prabhupada, c'est les recettes qu'elle a apprises de, soit de Brahmin en Inde ou de Prabhupada. C'est une bonne brique, là. Je sais pas. Je l'ai jamais acheté ce livre-là, là. Mais ça doit sûrement avoir au moins 300 pages, si c'est pas plus. Des recettes pour faire consciente de Krishna. Alors, c'est ça. Qui veut peut. Alors, celui qui veut vraiment être conscient de Krishna, Krishna va lui donner l'intelligence, va lui donner les facilités. Et si ça tarde à arriver, il faut pas perdre courage. Parce que Krishna récompense tout le temps, en temps et lieu, les efforts d'un dévot. Ça, c'est sûr.
Justement, concernant les ustensiles aussi, je crois qu'on peut pas, il faut vraiment avoir des ustensiles dédiés pour cuisiner.
Oui, c'est sûr.
Parce que si tu vis avec des gens qui peut-être vont faire une omelette dans la poêle ou ce genre de choses, tu peux pas utiliser la poêle après si tu veux faire du prashad. Ou alors il faut soit la laver avec de l'eau du Gange ou la laver à la bouse de vache. C'est ce qu'on m'a une classe que j'avais eue.
Ça, c'est selon temps, circonstances et individus. Alors, si tu es dans une famille où il y a juste toi qui est l'exception à la règle, ça va être bien difficile d'avoir des ustensiles qui n'ont pas été utilisés pour d'autres choses que pour tout va être utilisé autre que la conscience de Krishna. Mais par contre, si c'est toi qui as les rênes, là, à ce moment-là, tu peux, disons, fixer certains standards puis les suivre.
Mm.
Alors, comme par exemple, une certaine vaisselle, ça c'est pour Krishna.
Mm.
Pour rien d'autre, etc., etc. Ça,
Oui, il faut bien faire la distinction. On m'avait bien expliqué ça, quoi. Il faut bien faire la distinction et ne pas cuisiner dans des ustensiles si on n'est pas sûr que
ouais,
ils n'ont pas envie à cuire autre chose, quoi.
Il y a une autre petite règle. Même si là, je vais tourner ça un peu en farce, mais c'est sérieux pareil. Par exemple, même si tu as tous les ustensiles que tu voudras réserver à Krishna, mais tout d'un coup que, par mauvaise habitude, tu prends la cuillère puis je vais goûter. Ça, tu fais pas ça, tu fais jamais ça. Mais supposons que ça arrivait. À ce moment-là, oublie ça, là. Ta belle cuillère, mettons, en or, que tu disais, oh, ça, c'est juste pour Krishna, mais tu viens de goûter avec. C'est foutu. Si tu dis, je suis ce détail-là prêt, oublie ça, cette cuillère-là, là.
Comme se régaler des odeurs aussi.
Ouais. Alors, c'est pour ça que c'est la conscience encore qui fait la différence.
Et puis, petit à petit.
Oui, c'est petit à petit.
Au début, on commet des offrandes, on voit, on se recadre. Mais voilà, c'est comme l'ail et l'oignon aussi. Il y a longtemps, je savais pas que l'ail et l'oignon, il fallait pas que Krishna ne l'aimait pas. Donc, si tu offres quelque chose où tu as mis de l'oignon dedans beaucoup, genre ne va pas offrir à Krishna une tarte à l'oignon, quoi.
C'est ça. Il y en a un autre truc là. Ail et oignon, mais ciboulette. Est-ce que vous connaissez ciboulette, non?
Oui.
Ça fait partie de la famille des oignons et
oui, je sais
l'ail.
Alors
ça, on
oui.
peut pas, on peut pas offrir ça à Krishna non plus. Alors.
Pourquoi?
Parce que c'est des aliments dans la passion. C'est pas des aliments dans la vertu. Alors, comme on a dit tantôt, les aliments dans la vertu, les fruits, légumes, produits laitiers, grains, céréales, dans la passion, c'est décrit aussi dans la Bhagavad Gita. Les aliments, quelles sont les caractéristiques des aliments dans la passion? C'est les excès. C'est trop piquant, c'est trop sucré,
Trop
c'est trop
salé,
ci, c'est trop cela, ça c'est dans la
c'est trop
passion.
salé, etc.
Ouais, c'est ça, trop salé, etc. Alors, dans la vertu, c'est en fait, c'est ce que la nature produit, disons, dans les catégories qu'on a énoncées, là. Fruits, légumes, produits laitiers, céréales, grains. C'est pas dans la passion, c'est pas dans l'ignorance. C'est au naturel. C'est comme presque du prêt à manger ou facile à cuisiner aussi. Tu sais, comme des pommes de terre, tu vas pas manger ça cru. Tu vas les faire cuire, mais c'est pas la fin du monde de faire cuire des pommes de terre, là. En 20 minutes, une demi-heure, c'est prêt, là. Tu l'assaisonnes comme tu veux, tu fais ce que tu veux avec. Mais c'est ça, là. Alors, c'est là où il y a une volonté, il y a moyen de faire quelque chose. C'est where there's a will, there's a way. Alors voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires?
Un commentaire qui est encore un bon sujet pour ce soir, franchement.
Ouais, merci. Alors c'est ça. Alors on va se revoir dans une semaine.
Samedi.
Oui, il y a samedi aussi, on va se revoir
Oui.
samedi. Et l'autre, Upadeshamrita, c'est dans une semaine. Alors, merci beaucoup de venir au cours, c'est très apprécié.
Hare Krishna, Hare
Je sais
Krishna.
pas si t'es Hare Krishna.
Hare Krishna. Hare
Hare Krishna.
Krishna, les gens!
Hare Krishna, Prabhupada.
Allez, allez, bon.
Allez, allez, bon.
Alors, on se revoit bientôt. Hare Krishna.
Hare
Hare Krishna.
Krishna.
Hare Bol, Jai.
Allez, bon.
Hare Krishna, Hare Bol, Jai. Ah, voilà. Voilà. Ça. Là, on va sortir de là.